Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. La dépouille de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Bani, décédé le 10 septembre à Paris de complications liées au Covid-19, est arrivée hier soir à Abidjan, accueilli par une foule de parents et d'amis en pleurs, a constaté l'AFP. Parmi les nombreuses personnalités présentes, l'ex-premier ministre et ancien vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le programme officiel des obsèques de M. Bani sera connu plus tard. Au Burkina Faso, des milliers de litres de carburant de contrebande en provenance du Nigeria ont été saisis et 72 suspects interpellés dans le cadre d'une opération de démantèlement de ce vaste trafic, a annoncé jeudi le parquet. Le carburant proviendrait du Nigeria en passant par le Bénin pour être stocké à Kualou, dans l'est du Burkina Faso, et pour ensuite inonder plusieurs villes dont la capitale Ouagadougou, a expliqué le procureur Haruna Yoda. Au Kenya, les autorités ont interdit ce jeudi la projection et la diffusion d'un documentaire racontant l'histoire d'un couple gay, qualifiant le film d'inacceptable et d'affront à la culture et à l'identité de ce pays profondément chrétien qui criminalise l'homosexualité. Ayam Samuel, du réalisateur kényan Peter Murimi, raconte une histoire d'amour entre deux hommes vivant à Nairobi. L'homosexualité est taboue dans la plupart des pays d'Afrique où les homosexuels font souvent face à des discriminations, voire des persécutions. Le haut responsable de la santé de l'Union africaine a qualifié ce jeudi de regrettable le manque de reconnaissance de la Grande-Bretagne pour les vaccins contre les coronavirus administrés en Afrique, affirmant qu'il envoyait un message de santé publique déroutant. La Grande-Bretagne, qui a placé sur liste rouge de nombreux pays africains, imposant à leurs voyageurs de strictes quarantaines, risque de décourager les efforts de vaccination sur le continent le plus en peine, a dénoncé jeudi l'autorité sanitaire de l'Union africaine. Les personnes vaccinées contre le Covid-19 à l'étranger avec les vaccins chinois pourront désormais bénéficier du pass sanitaire en France, à condition toutefois de recevoir une dose supplémentaire de Pfizer ou Moderna, a décidé le gouvernement. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement recommandé ce vendredi un troisième traitement contre le Covid-19, les anticorps de synthèse de Regeneron, mais seulement dans certains cas bien précis. Ce traitement est recommandé d'une part chez les patients avec des formes non sévères du Covid qui sont à haut risque d'hospitalisation comme les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli par un cancer ou après une greffe d'organes, par exemple. Un comité d'experts sanitaires américains a refusé hier d'inclure les personnes exposées au coronavirus dans le cadre de leur travail, comme les enseignants ou les employés de supermarchés, dans les bénéficiaires d'une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer, malgré l'autorisation la veille de l'Agence américaine des médicaments. Le comité des CDC a toutefois accepté de recommander une troisième dose du vaccin de Pfizer pour les personnes de plus de 65 ans, ainsi que pour celles entre 18 et 64 ans, présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie. La chef des CDC, Rochelle Walensky, doit encore signer ces recommandations. Quatre membres du cercle restreint de l'ancien président américain Donald Trump ont reçu hier des assignations à comparaître devant une commission du Congrès pour faire la lumière sur ce que M. Trump a exactement dit et fait le jour où des émeutiers ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier dernier. La commission d'enquête spéciale, contrôlée par les démocrates, que M. Trump juge partial, s'intéresse particulièrement à Mark Meadows, le secrétaire général de la Maison-Blanche à l'époque. La suite de nos informations, quatrième journée de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Très attendu aujourd'hui à la tribune, le président sénégalais Macky Sall, dont le pays est souvent cité comme modèle de démocratie sur le continent, et le Nigérian Muhammadu Buhari. Le Nigeria, un géant de l'Afrique qui concentre tous les problèmes du continent, les violences djihadistes, séparatistes, le banditisme, la corruption et la pauvreté. Retour sur les points marquants de la journée d'hier avec notre correspondante à New York, Dili Diko.
Mahamat Idriss Déby Itno, du Tchad, dans sa première apparition par un message vidéo, a insisté sur les questions sécuritaires.
La multiplication des attaques terroristes contre les armées des pays du G5 et du bassin du lac Tchad, ainsi que les populations civiles au Burkina, Mali et Niger, illustrent la résilience et la capacité de nuisance des groupes terroristes qui menacent gravement l'existence de nos États et hypothèquent leur développement.
Ali Bongo, le président gabonais, lui aussi en vidéo, est revenu sur les effets du dérèglement climatique.
Ces phénomènes interagissent avec les problèmes socio-économiques et politiques dans nos pays, mettant en évidence des risques tels que l'instabilité politique et économique, l'insécurité alimentaire et la migration à grande échelle, entre autres.
Une autre première apparition avec le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui veut tourner la page à des années de conflits et de massacres dans son pays.
Comme il ressort du thème central de notre débat général, il faut effectivement redonner de l'espoir à nos citoyens. Au Burundi, c'est redonner l'espoir non seulement face aux effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, mais aussi aux conséquences de ces crises répétitives qui se sont perpétrées dans le pays en toute impunité.
Aujourd'hui, il y aura des messages vidéo du Bénin et de la Gambie, mais sont très attendus le discours en personne du président sénégalais Macky Sall et celui du Nigérian Muhammadu Buhari. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Au Mali, Mahamadou Camara, ancien directeur de cabinet du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, a été placé hier sous mandat de dépôt dans l'enquête sur l'achat de l'avion du président malien en 2014. Le point avec Michel Joseph.
Mahamadou Camara a été directeur de cabinet puis ministre du président Ibrahim Keïta. Il fait l'objet depuis lundi, avec deux autres personnes, d'un mandat d'arrêt de la Cour suprême. Après sa comparution hier, le juge l'a placé sous mandat de dépôt et l'a déféré à la prison centrale de Bamako. L'achat d'un avion présidentiel pour près de 40 millions de dollars, ainsi que du matériel militaire à une société malienne, tous deux sans appel d'offres, ont valu en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières, notamment le gel pendant 6 mois des décaissements du FMI. L'ex-premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga, ministre de la Défense au moment des faits, ainsi que l'ex-ministre de l'économie, Boiré Fili Sissoko, ont déjà été placés sous mandat de dépôt. Tous les deux sont poursuivis pour atteinte aux biens publics et soupçonnés d'escroquerie, faux et favoritisme. Ces poursuites ont également provoqué une polémique au sein de la Cour suprême. Cheikh Mohamed Chérif Kone a publiquement accusé le 7 septembre le président et le procureur général de la Cour, Wafi Ougadey Cissé et Mamadou Timbo, de forfaiture. Il a aussitôt été relevé de ses fonctions par un décret du président de transition, le colonel Assimi Goïta, en raison de graves fautes professionnelles.
En Tunisie, le chef du Parlement et du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, a appelé, et je cite, « à la lutte pacifique contre le pouvoir absolu d'un seul homme ». Fin de citation. Ces derniers jours, le président Kais Saied a considérablement renforcé ses pouvoirs, Claire Morin-Gibour.
Rached Ghannouchi, chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, fustige le retour vers le pouvoir absolu d'un seul homme et appelle à la résistance. Selon lui, la seule option est la lutte pacifique, ajoutant qu'Ennahda, les autres partis et la société civile se battront pour récupérer leur constitution et leur démocratie. Le président Kais Saied, bête noire d'Ennahda, a formalisé mercredi son coup de force du 25 juillet en promulguant des dispositions renforçant ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement. Ces mesures ont suscité la colère de tous ses adversaires dans un pays miné par les divisions et les crises successives ces dernières années. Elle renforce aussi les inquiétudes sur la pérennité de la démocratie en Tunisie, berceau du printemps arabe.
La Minute Écho, Jean-Roger Bion.
L'ONU dénonce un pillage massif des caisses de l'État au Soudan du Sud. Selon la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, une sidérante somme d'argent et d'autres biens ont été détournés des caisses et des ressources publiques, plus de 73 millions de dollars depuis 2018, dont près de 39 millions de dollars volés en moins de 2 mois. Ce chiffre ne représente qu'une fraction du pillage global des caisses de l'État au Soudan du Sud, souligne l'ONU, indiquant que le président Salva Kiir a reconnu qu'en 2012, les élites au pouvoir ont détourné plus de 4 milliards de dollars. 26 millions de dollars confisqués au vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang Nguema vont être utilisés pour lutter contre le COVID-19 en Guinée équatoriale. C'est une décision de la justice des États-Unis qui accuse le fils du président Obiang Nguema d'avoir acquis 300 millions de dollars d'actifs par le moyen de la corruption et du blanchiment d'argent en 2011. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 20 millions d'euros au Cap-Vert pour financer le programme de gouvernance électronique et de modernisation de l'administration publique. Ce financement est la première phase d'une opération d'appui budgétaire couvrant les exercices 2021 et 2022 avec un financement indicatif global de 40 millions d'euros pour améliorer l'efficacité numérique pour une modernisation de l'administration, la transparence et l'augmentation des investissements du secteur privé.
Merci Jean-Roger. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Cyclisme pour commencer. Les championnats du monde de cyclisme sur route 2025 auront lieu au Rwanda, une première en Afrique. L'annonce a été faite par la Fédération rwandaise du cyclisme. Le congrès de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui se tient ce vendredi à Louvain en Belgique, doit entériner la décision avant son officialisation. Deux candidatures, le Rwanda et le Maroc, étaient en lice pour ces premiers championnats du monde de cyclisme organisés en Afrique. Le comité directeur de l'UCI a opté pour la candidature de Kigali, qui partait grande favorite. Le Tour du Rwanda, pour lequel s'est déplacé en mai dernier David Lapartien, président de l'UCI, est l'un des principaux événements cyclistes en Afrique et attire chaque année une grande foule. Football, le leader Naples amené par le Nigérian Victor Osimhen, auteur d'un doublé sur la pelouse de la Sampdoria 4-0, poursuit son sans-faute en championnat d'Italie avec une 5e victoire en 5 matchs. Osimhen, dont la première saison napolitaine avait été perturbée par une longue blessure à l'épaule et le Covid-19, a inscrit 5 buts en une semaine entre Serie A et Ligue Europa, soit déjà la moitié de son total de tout son exercice précédent. Pendant que le Napoli vole en tête de la Serie A, la Lazio Rome continue de se chercher. Les Laziali de Mauricio Sarri ont péniblement pris un point sur le terrain du Torino 1-1 à 3 jours du derby de la capitale contre la Roma. Romelu Lukaku estime que le monde du football doit combattre plus fortement le racisme. L'attaquant belge de Chelsea dit douter de l'efficacité du genou mis à terre par les joueurs au début des matchs de Premier League. « Nous pouvons prendre des positions plus affirmées », a déclaré Lukaku, qui a renchéri, je cite, « Certes, on met le genou à terre et tout le monde applaudit, mais parfois, après le match, il y a eu encore une insulte. » Lukaku aimerait que les joueurs influents et les patrons des réseaux sociaux et d'autres acteurs se réunissent pour s'attaquer au racisme sur les réseaux. Il s'est exprimé à l'occasion du lancement par son club d'un concours de photographie baptisé « Non à la haine » qui propose aux supporters du monde entier d'envoyer leurs photos pour montrer leur diversité.
Merci Yacoub. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme a remis cette semaine son rapport annuel 2020 aux autorités gouvernementales et ce, au cours d'une cérémonie officielle. Entre autres faits notables, le Conseil dit avoir reçu 325 plaintes liées aux violences basées sur le genre, dont 152 plaintes pour viol. Il recommande aussi l'augmentation de l'offre scolaire et l'amélioration des structures sanitaires du pays. D'Abidjan, un compte-rendu de notre correspondante Delphine Boïse.
Sur les 1765 cas qui ont été portés devant le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, le CNDH dit avoir traité 1287. Les cas de viol liés au genre occupent une bonne place puisque 152 cas de viol ont été signalés et au total 325 plaintes ont porté sur les violences basées sur le genre. Réaction de Mylène Kamara-Soro, coordinatrice nationale du WANEPSI, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, section Côte d'Ivoire.
Ces chiffres-là nous interpellent et mettent en évidence le fait que la lutte contre les VBG doit être renforcée et nous interpellent sur le fait que le viol a toujours besoin qu'on garde les projecteurs pour renforcer les actions pour trouver des solutions durables.
Le rapport 2020 est aussi revenu sur l'insuffisance des infrastructures scolaires. Il évoque aussi la question des faibles moyens consacrés à la santé dans le pays. On écoute de nouveau Mylène Kamara-Soro au titre des réactions.
Au moment où le principe de l'éducation pour tous est lancé en Côte d'Ivoire, nous pensons effectivement qu'il est bon qu'il y ait des infrastructures correctes pour accueillir les enfants, et y compris les questions de budget de santé qui ont été mises en évidence. Tous ces éléments pour nous sont très importants et sont conformes à la situation de terrain.
Les recommandations du dit rapport, on écoute la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Namizata Sangari.
Le rapport suggère, entre autres, de procéder pour une meilleure réalisation des politiques publiques et des droits de l'homme, de renforcer les plateaux techniques des structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire, d'augmenter de 15% le budget alloué à la santé afin de garantir le droit à la santé des populations, de construire davantage d'infrastructures scolaires afin de garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants, de doter le système judiciaire et pénitentiaire de davantage de moyens pour renforcer la protection des droits des usagers et des détenus.
Le document a été reçu par le ministre chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafanakouni.
J'encourage le CNDH à continuer de jouer son rôle dans l'instauration de la paix sociale en poursuivant sa mission dans le sens du renforcement de la stabilité et de la préservation de l'équilibre social.
Le rapport 2020 sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire sera présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Delphine Boïse, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire toujours, la fourniture d'un certificat médical n'est plus une condition pour dénoncer les cas de violence sur le genre, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly. Il a ajouté qu'un projet de loi supprimant l'exigence de ce certificat médical pour poser plainte en cas d'abus sexuel a été déposé au Parlement. Le procureur peut demander l'avis de tout expert de faire des analyses, mais les frais y afférents sont supportés par l'administration judiciaire, a précisé M. Koulibaly. Pour une réaction, Yacouba Ouédraogo, adjoint à Abidjan, Namazita Sangaré, présidente du Conseil ivoirien des droits de l'homme.
C'est vrai que le certificat médical n'est pas le seul élément de preuve, mais c'est une pièce maîtresse pour prouver effectivement qu'on a été victime de violence. Et cette pièce maîtresse coûte en Côte d'Ivoire 50 000 francs. Et par le passé, il y a le programme des Nations Unies qui avait mis en place un centre qu'on appelle le centre Parios, où les femmes pouvaient aller, quand elles sont victimes de violences, se faire assister soit par un conseil juridique, soit un médecin. Et la consultation, non seulement était gratuite, et la production de cette pièce maîtresse qu'on appelle certificat médical, si le fait de violence était avéré, leur était donné gratuitement. Malheureusement, ce programme n'a pas été dupliqué.
Est-ce que vous avez eu connaissance du contenu de ce projet de loi ?
Si aujourd'hui le gouvernement a déposé une loi sur la table des députés, on ne peut que s'en réjouir. Mais toutefois, on aurait souhaité que le gouvernement partage, n'est-ce pas, ce projet de loi avec l'Organisme national de défense des droits de l'homme ou aux organisations de défense des droits de l'homme pour que, n'est-ce pas, on puisse apporter nos observations. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui recevons les références des populations. Et comme on l'a dit dans notre rapport, hein, pour la seule année de 2020, nous avons reçu 325 saisines de violences basées sur le genre, dont 152 cas de viol.
Quel genre de difficultés concrètes les présumées victimes de violences sexuelles, par exemple, rencontrent quand elles veulent poser plainte?
Quand une femme est victime en Côte d'Ivoire, pour ce que nous savons, d'abord, elles vont soit au commissariat ou au Conseil national des droits de l'homme ou dans le bureau d'un démembrement de la Commission nationale des droits de l'homme. Et la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller dans un hôpital. C'est la moindre des choses. Il faut être examiné par un médecin, et lequel médecin qui va dire tout de suite que oui, effectivement, il y a eu en tout cas abus sur la personne concrétisée par ce certificat médical.
Alors que le certificat médical coûte cher, 50 000 francs CFA, vous le disiez.
Exactement.
Qu'est-ce qui est fait en Côte d'Ivoire pour lutter contre ces abus sexuels en particulier?
Le viol, en tant que violence, est réprimé par notre code pénal. C'est les autres formes de violence qui ne sont pas...
Quelles formes, par exemple?
Les violences domestiques. Pour que il y ait ce code pénal soit appliqué, mais il faut que moi j'arrive à prouver devant le juge que effectivement j'ai été victime d'abus sexuels. Même si on dit que effectivement il y a les déchirures des vêtements, des bleus, des coups physiques, pour que je puisse démontrer tout ça devant un juge, tout ça, ça fait un coup.
Pour le moment, c'est à l'étape du projet de loi et donc pas encore adopté par l'Assemblée nationale. Avez-vous espoir que ça va passer?
Donc nous allons faire notre plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale pour que très rapidement cette loi soit votée et promulguée, pour que nous, organisme national de défense des droits de l'homme, qui accompagnons les actions du gouvernement, nous puissions disséminer large cette loi et dire aux victimes de violence que désormais elles ont une protection de la part du gouvernement.
Namazita Sangaré, présidente du Conseil ivoirien des droits de l'homme, jointe à Abidjan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'État camerounais a subi un préjudice financier de plus de 16 milliards de francs CFA pour des affaires de corruption et infractions assimilées. C'est ce que révèle le rapport 2020 sur l'état des lieux de la corruption rendu public ce jeudi à Yaoundé. Le rapport indique aussi que c'est le secteur des transports routiers qui fait le plus l'objet de dénonciations d'effets de corruption au Cameroun. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
La corruption ne recule pas au Cameroun. 46 gestionnaires ont été déclarés coupables dans les affaires qui les mettaient en cause devant le tribunal criminel spécial qui statue pour des faits de détournement de fonds à partir de 50 millions de francs CFA. Écoutons Dieudonné Massigams, président de la CONAC.
De la lecture du rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2020, il ressort qu'en dépit d'un contexte social particulièrement difficile, les atteintes à la fortune publique et à la gouvernance n'ont pas connu de ralentissement dans notre pays. En effet, le préjudice financier subi par l'État du Cameroun en 2020 est évalué au total de 17 611 274 184 francs CFA.
La corruption étend aussi ses tentacules dans le secteur routier. Les usagers de ce secteur ont le plus dénoncé l'an dernier sur la ligne verte de la CONAC le 15-17 des faits de corruption au Cameroun. Alexandre est chauffeur de taxi à Yaoundé.
À tous les postes, on trouve les contrôles. On n'arrive pas à travailler. Hein? La corruption au Cameroun a débordé les lignes.
Des acteurs de la société civile, mais aussi des hommes politiques, présents à la cérémonie de présentation du rapport sur l'état des lieux de la corruption, s'inquiètent de l'ampleur de ce fléau. Le Cameroun est parmi les 30 pays les plus corrompus dans le monde, selon Transparency International. Le député Cabral Libi, du PCRN.
La plupart des gens que l'opération Épervier a attrapés, ce ne sont pas des voleurs à la tire. Ce sont des gens qui ont volé des milliards de francs alors que déjà, avant de les voler, ils étaient déjà réputés suffisamment aisés. Donc c'est une gangrène qui est systémique.
Marie-Jeanne Abega, de la société civile, a un souhait.
Pourquoi est-ce que la CONAC n'a pas les démembrements sur l'étendue du territoire? Je souhaite que la CONAC obéisse à la décentralisation, qu'elle soit aussi décentralisée pour une action plus prompte.
Le président de la Commission nationale anticorruption plaide désormais pour l'adoption d'une loi anticorruption au Cameroun et la mise en place d'institutions de gestion des avoirs volés. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
L'émissaire spécial du département d'État américain en Haïti, Daniel Foote, a démissionné ce jeudi, 2 mois après sa nomination, dénonçant l'expulsion par l'administration Biden de migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Les législateurs américains, démocrates et républicains, ont critiqué le traitement infligé à des milliers de migrants haïtiens qui tentaient mercredi de traverser la frontière. Ces critiques interviennent pendant que les États-Unis augmentent les vols de rapatriement hors de l'État du Texas. Les détails avec notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, Yacouba Ouédraogo pour le récit.
La traversée entre les États-Unis et le Mexique à Del Rio, au Texas, a été verrouillé mercredi, alors que des milliers de migrants haïtiens s'installent sous le pont entre les deux pays, attendant de traverser pour demander l'asile. Après des images choquantes d'agents de la patrouille frontalière à cheval brutalisant des migrants, le secrétaire à la sécurité intérieure a promis une enquête rapide. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
The images.
Les images provenant de Del Rio au Texas au cours des derniers jours ont correctement et nécessairement rencontré la fureur de notre nation car elles ne reflètent pas qui nous sommes en tant que pays ni ce qu'est le service de la douane et de la protection des frontières des États-Unis.
La Maison-Blanche s'est fait l'écho de ses préoccupations tout en soulignant que la politique américaine d'immigration doit toujours être suivi à la frontière. Diane Psaki, attachée de presse de la Maison-Blanche.
Cela a été un problème incroyablement déchirant. Nous avons regardé les photos d'Haïtiens rassemblés sous un pont, dont beaucoup avec des familles, et l'horrible vidéo des agents de la sécurité intérieure à cheval, utilisant des mesures brutales et inappropriées contre des innocents. Je pense qu'il est important d'aborder cela et d'aborder séparément nos politiques d'immigration et de comprendre que les gens font l'amalgame.
Mais les républicains du Congrès ont déclaré que les politiques d'immigration de l'administration Biden ont directement causé cette crise. Mitch McConnell, chef de la minorité républicaine au Sénat.
Ce cauchemar est le résultat direct des politiques de gauche et des messages de gauche poussés par l'administration Biden. Ils disent que leur approche de l'immigration est la voie de la compassion, celle qui reflète l'âme de l'Amérique. Ils ont tort.
La réponse de la patrouille frontalière a aussi suscité de vives critiques de la part des démocrates qui ont constaté les raisons pour lesquelles les Haïtiens sont expulsés et ont appelé à mettre fin à ces déportations sommaires initiées par l'administration Trump qui invoquait la pandémie de COVID-19. Sheila Lee, députée démocrate.
Dans quelle mesure la race a-t-elle joué un rôle dans ces actions? Est-ce que vous vous penchez aussi là-dessus? Et aussi, avez-vous pensé à cette relique Trump de l'article 42? N'est pas l'éliminer, mais la suspendre au fait que les Haïtiens ont été qualifiés comme ne représentant aucune menace pour la sécurité nationale.
Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
À ce qui concerne l'article 42 et son application, cela relève de l'autorité des centres de contrôle des maladies. Ce n'est pas une question de politique d'immigration. C'est une question de politique de santé publique motivée par la situation de COVID-19 et où se situe la trajectoire de cette pandémie.
Des milliers de migrants haïtiens sont libérés aux États-Unis s'ils promettent de se présenter à un bureau d'immigration dans les 60 jours. D'autres sont rapatriés par avion vers Haïti. Les critères pour déterminer le sort de ceux qui restent ou repartent ne sont pas très clairs.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute.